bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Léa Cadou.
Bonjour.
Léa Pièce sur Stade.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour.
Albert Algout.
Bonjour.
Il y aura Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Et nos invités sont Gustave Kerben et Grégoire Ludic.
Bravo.
Soyez les bien. Ouais, vas-y.
Moi, je m'enlève ma veste.
Déshabillez-vous.
Il y a vraiment un bouton très ouvert.
Agnès,
ouais, mais je vais refermer, c'est pas grave.
Non, au contraire.
Et là, on prend la Agnès, qu'est-ce qui arrive.
Et voilà, c'est fermé.
Oh là là, pénible.
Et Grégoire,
mais c'est pour lui, c'est filmé.
J'arrive un peu en catastrophe.
Grégoire, pourquoi vous voulez arrêter le trouble que vous avez fait naître dans l'esprit d'Agnès?
Ah, j'ai pas été troublé pour un sou.
Elle.
Ah, elle.
Ne vous pas qu'il soit mal à l'aise.
Ah, mais je ne le suis pas, mais je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise non plus avec mon bouton ouvert, pardon.
En tout cas, il t'a bien calmé en disant j'ai pas été troublé pour un sou. Mais alors, d'une force.
Ah, ouais, non, mais là, ce matin, on y va.
Nous avons un jeune film. Ouais. Vous avez un film dont nous allons parler ce matin et la force du marketing, de la presse, de la communication.
Ouais, c'est ça,
de France Inter aussi.
Vous avez, c'est-à-dire.
Il neige.
Voilà. Il neige pour la sortie
c'est
des
fou,
petits
hein,
flocons.
C'est énorme.
Normalement, nous on reçoit des casquettes avec le titre du film, des t-shirts. Ça. Mais ouais. Alors faire neiger sur Paris pour la sortie des petits flocons. La classe.
Ouais, ouais,
la classe. Sûr. Avant de parler de ce très beau film et touchant, intelligent et drôle, un film de Joséphine Demeaux, c'est son premier, hein, c'est une brillante comédienne que vous avez pu voir entre autres dans Intouchables, je pense à ça parce que Omar Sy était.
T'es sûr que c'est Intouchables ?
Dans Nos Jours Heureux.
Jours Heureux, je crois qu'elle est dans Intouchables aussi.
Ah oui ? Mmh.
Ah ouais, peut-être.
On va vérifier. Enfin, en tout cas, elle est réalisatrice et comédienne principale et auteure de ce film. Joséphine Demeaux. D'abord, question concernant nos invités.
Oui.
On va commencer. C'est par Grégoire.
Allons-y.
Alors, début, le Palmacho a envoyé des sketchs tournés par eux-mêmes à une société de production. Quelles réponses ont-ils reçues?
Non.
Allez vous faire foutre.
Fallait changer
oui,
des
non.
choses.
Non.
Ça tient en trois lettres.
C'était un nom.
Ça
nul.
Tient en trois lettres.
Nul. Ils ont... oui, en trois lettres. Nul.
En trois lettres, oui. Nul, mais où c'était écrit? Où était-ce écrit, pardon?
Sur l'enveloppe.
En cœur, hein,
ouais, en cœur. Je suis très gêné. Allez, un point, tout, allez
un
point chacun. Sur le paquet que vous aviez envoyé, le CD, en fait, le DVD, je sais pas.
Ouais, en fait, on avait envoyé un DVD de petits sketchs qu'on avait tourné avec David et on avait envoyé une petite lettre avec. Et eux, gentiment, nous avaient renvoyé une petite lettre en disant merci de l'attention que vous nous avez portée, mais malheureusement, ça ne correspond pas à ce qu'on recherche. Et derrière, il y avait marqué nul, en gros, rayé, enfin, souligné, je veux dire.
Sur votre CD, sur votre DVD.
Non, sur la gentille lettre.
Ah, sur la leur.
Au recto,
ah ouais.
Il y avait marqué. Désolé, on ne pourra pas donner suite à votre demande, mais c'est sympa.
Ah, j'avais pas compris ça.
On retourne la feuille et juste derrière, il y avait un gros nul rayé.
Une violence inouïe.
Ça nous a fait rire.
Tu gagnes du temps en même temps.
Oui, en même temps, on savait.
T'es fixé.
T'es visionnaire.
On n'a pas relancé finalement.
Et un jour, vous direz quelle est la boîte de prod qui est passée à côté d'une.
Non, c'est pas utile, mais c'était rigolo.
C'est une grosse boîte.
C'est une. Ouais, c'était une prod de Nagui.
Non, vous voulez pas donner le nom de la boîte, mais c'est la boîte de prod qui produisait un gars et une fille. Non, on peut le dire.
Ouais, c'est ça, bah voilà, exactement.
C'est quoi, Nagui?
Bah parce qu'on était fans de cette.
J'ai pas le nom de la boîte, mais c'était un gars et une fille.
Ouais.
C'était pour avoir l'esprit dans lequel vous étiez.
Tout à fait, voilà. Exactement.
Que porte Gustave autour du cou? Ah bah là, arrête de regarder, Agnès était à deux doigts de le déshabiller pour regarder.
Elle est chaude, Agnès.
Elle est très chaude, elle est brûlante.
Et médaille de la Vierge.
Exactement.
Comment tu sais ça, toi, mais Albert mais...
Parce que c'est j'ai gênant. Une tête de bon chrétien.
C'est intimité.
Non, mais t'as dit ça au pif?
Oui, bien sûr.
Et vous rajoutez même dans une interview que vous êtes le seul croyant de l'équipe de Groland.
Ouais, bah oui, c'est vrai. Enfin, ils veulent pas croire que je crois. À chaque fois, ils balancent des trucs sur. Mais le pape, ça me dérange pas de le.
Non, mais le côté anticlérical qu'il y a souvent dans Groland, on peut le dire. Hein.
Oh. Ouais, je sais. Non, mais c'est comme ça. Hein, je suis croyant. Si tu veux que je. Mais par contre, je attaquer le pape, le clergé, tout ça me dérange absolument pas. Du tout, mais ouais, bah, écoute, je sais pas, c'est très profond, très intime.
D'accord. Voilà. Lorsqu'il était petit enfant, il y a pas longtemps, Grégoire Ludic hésitait entre trois métiers, acteur, footballeur, et quel était le troisième?
Animateur.
Proxénète.
Boulanger.
Non. Proxénète, c'est
acteur,
très
t'as dit?
Acteur, footballeur, et le troisième?
Architecte, facteur, boulanger.
Ébéniste.
Non, ça peut avoir un rapport avec son métier
oui,
actuel.
Ça peut.
réalisateur, costumier, décorateur,
journaliste,
maquilleur,
effets spéciaux,
décorateur, costumier,
caméraman,
couturier.
Non, ça peut avoir un rapport avec le métier d'acteur.
Escroc.
Douanier,
escroc. Ça peut avoir comme métier d'acteur.
Mais pourquoi pas animateur télé, tant que tu es. S'il te plaît, sois gentil avec les invités.
Acteur,
dentiste,
acteur, footballeur,
ouvreuse,
non, acteur, footballeur.
Ouvreuse.
Alors je vais vous aider, pensez à la carrière de Belmondo.
Cascadeur,
joli.
Bien joué.
Bien joué, Daniel Morin.
Ouais, c'est vrai.
Vous rêviez d'être cascadeur.
Bah oui, j'aimais bien, surtout quand on regardait les James Bond et tout, quand il y avait toujours des mecs qui voilà. Avec
mais je parlais de Belmondo parce que c'est lui qui faisait les cascades. Ouais. James Bond, non.
Ouais, mais moi j'aime à croire que c'est lui quand même.
Daniel Craig, il fait plein de cascades.
Voilà, Daniel Craig.
Quoi, il t'a tué au téléphone, tu
ouais,
sais.
Ouais, bien sûr.
Il a fait un rouleau de boulet devant toi.
J'ai une passion pour James Bond.
C'est vrai que Belmondo faisait toutes ces cascades, et c'est vrai que c'était assez intéressant. Je me disais, ça va être génial de pouvoir tout faire. Et après, plus tu grandis et plus tu te dis, on peut pas tout faire, en tous les cas. Enfin, moi non. Mais
c'est pas trop
bien,
tard.
Je trouvais ça super.
Pas trop tard.
Tout à fait. Il y a des écoles, on peut encore rattraper le temps.
Et vous n'aviez aucune peur de physique, de, je sais pas, de vous blesser, de faire une entorse, de.
Non, jusqu'à un certain moment, oui. Puis à un moment donné, t'essayes, et puis tu te rends compte que tu t'es fait mal, et tu te dis, c'est un vrai métier.
Dans le film, donc, par exemple, est-ce que vous avez fait vous-même vos propres cascades?
Je suis tombé comme ça de mes skis par terre, parce que moi, je sais pas skier, hein. C'est quand même le postulat. Tu l'as de base, remarque, ça tombe bien parce que dans le film, je joue un personnage qui ne sait pas skier et je ne sais pas skier dans la vraie vie. Donc je suis juste tombé comme ça. Mais même ça fait mal, hein, même de tomber
de
à l'arrêt.
Oui, exactement, exactement. Il y a beaucoup de chutes dans le film, de glissades, ce qui est le plus difficile d'ailleurs, parce que tomber d'une manière entre guillemets organisée, millimétrée par un cascadeur, ça peut le faire.
Ouais,
mais c'est glisser,
pas... c'est... Ouais, c'est, non, c'est.
Et puis pas on ne peut pas truquer, il faut le voir.
Non.
Donc, ça fonctionne. Et ça fonctionne bien en tout cas dans le film. Tout le monde l'adore. J'ai l'impression, quand je dis tout le monde, c'est vraiment le monde entier, la planète entière. Mais Gustave le déteste.
Le Dalai Lama.
Alors c'est l'esprit, mais c'est pas ça.
Je me rappelle
même plus, moi.
Tout le monde l'adore.
Ah, tout le monde l'adore, mais lui le déteste.
Michel Drucker.
Non, ne réponds pas
non.
Ça.
Je sais pas moi.
Mais bonne vanne.
J'essaye de prendre des figures comme
ouais,
ça.
Je vois.
C'est une personnalité mondiale.
Une personnalité française qui est devenue.
Je retrouve.
Ricard.
Qui est venue mondiale. Allez, je vais vous aider. Ah, oui. Qui est devenue planétaire.
Pierre Rabhi.
Non.
Planétaire.
Ah oui, Pasquier.
Ouais, exactement.
Ah ouais.
Attends, tu confonds avec le pain de mie.
Vous n'avez pas le pain de mie, mais c'est quoi ce problème? Quel est le problème avec les sandwichs en
fait? Je sais pas,
Thomas Pesquet vous énerve.
L'espace y en a autre.
Je sais pas, oui, je trouve qu'il a un côté oui-oui dans l'espace qui m'énerve.
Ouais, je suis d'accord.
Envoyer des photos bidons.
Mais elles sont pas bidons, elles faisaient rêver la planète entière.
Toilettes, il fait croire qu'il est dans une cabine spatiale.
Mais arrêtez, mais moi j'étais sur son Instagram, j'attendais de voir quelle est la prochaine. Mais non, mais vous rêvez pas d'aller dans les étoiles?
Pour moi, c'est un produit marketing. Je sais pas, c'est un mec.
Il a rien vendu. C'était gratuit.
Il a vendu la France dans l'espace. Mais voyons, Nagui, c'est cousu de fil blanc, tout ça. C'est...
Ah bon?
Non, mais je trouve que c'est son côté un peu, simplet qui m'énerve, quoi.
D'accord. Gentil, à la limite. Il était trop gentil.
Gentil, ouais.
Et il nous écoute en ce moment.
Et on l'embrasse. Quand ils ont débuté sur Direct 8, comment était payée l'équipe du Palma Show?
Un ticket resto?
Exactement. On peut même rajouter un appareil photo. Vous regardez pas comme ça, c'est faux.
Non, j'essaie de...
Vous étiez pas payé en ticket resto?
Ah non, quand même pas.
Bah écoutez, c'est ce que vous avez dit dans GQ. C'est quand même un magazine de référence. Le directeur des programmes de Direct 8 vous appelle en disant: les mecs, pour l'instant, l'humour sur Direct 8, c'est Papa Schultz.
Ah, ça c'est très vrai.
Nous, on n'a pas de blé, on va vous donner des tickets resto et un appareil photo.
On a dit OK,
à condition de faire ce que l'on voulait.
Ah, bah alors on a peut-être fait une image avec ça.
Si c'est faux, quoi.
Non, mais on nous a effectivement, à l'époque, payé en ticket resto, mais c'était pas sur Direct 8, c'était à l'époque de Fun Radio, quand on bossait avec David en écriture, et on était un petit peu les mecs du fond de la... On ouvrait la porte, et on disait, bon, il faut faire un sketch sur ça et sur ça, et puis il refermait la porte. On disait, oui, mais on
a fait un truc, quand même.
J'exagère, mais... mais Direct 8, en tout cas, au départ, c'était un peu ça.
C'était un peu Lance-Pierre, ouais.
Ouais, voilà, mais c'était...
Avant Bolloré, c'était Lance-Pierre.
Ouais, c'était super.
Et depuis, vous êtes parti.
Et depuis, on a fait... Ouais, on propose un prime, là, sur TF1, le mois prochain. Exactement.
Voilà. Donc là, là
moi, le silence de mort.
Vous êtes sûr? Ouais. Non, parce que je, parce que
non, vous écoutez avec attention.
Et puis normalement, c'est une question de fin d'émission. C'est quoi vos projets?
Ouais, c'est ça.
C'est un peu...
Donc on va s'arrêter maintenant.
Bonne journée.
Lors du tournage Near Death Experience, Gustave a vécu une histoire particulière avec Michel Houellebecq. Laquelle?
L'embrasser sur la bouche.
Ah non, ça c'est très particulier, ça.
Suicidaire.
Il y en a eu plein.
Ils ont eu des hallucinations communes, un truc comme ça, non?
Ça a rapport avec une histoire. C'est en voiture. Problème en voiture.
Ils ont eu un accident.
Non.
Ils ont tombé en panne.
Non.
Ils ont mis la même ceinture.
Non. Ils l'emmènent et il y a un problème.
Il n'y a plus de frein.
Non.
Il a vomi dans la
voiture. Une fuite d'huile. Mais non. C'est Houellebecq qui avait une fuite.
Ils se perdent tous les deux.
Houellebecq est dans le coffre.
Alors c'est pas loin.
La boîte à gants.
Non.
Il y a quelqu'un dans le coffre et il le savait pas. C'est un fan.
Alors quelqu'un reste dans la voiture. Gustave sait très bien qui.
Michel.
Exactement. Vous l'oubliez dans la voiture.
Ah. Ouais, c'est vrai.
Quoi ouais. Mais lui aussi mais non, s'oublie quoi parce non, que.
Oui, ce que j'allais dire. Et lui, enfant, et lui il sort pas.
Ouais, non, mais on était une toute petite équipe. Non, mais c'est pendant le tournage, hein, ça que t'as dit. Hein.
Ouais. Ouais.
En fait, nous, on était 8 en tout pour faire le film. Donc, à un moment donné, on fait une séquence et puis il devait pas être là. Et puis on le met dans la voiture pour le raccompagner. Sauf que comme tout le monde est occupé...
Excusez-moi, on le met dans la voiture. Il peut marcher, ce monsieur.
Non,
on le met dans la voiture.
Peut-être il est cotonneux.
Non, mais dans les interviews, vous dites souvent ça.
On lui dit attends dans la voiture. On va le raccompagner. Sauf que comme on était très peu, on continue à faire des scènes. Et puis on oublie quoi. On oublie qu'il est dans la voiture.
Et lui, poliment attend sans rien dire.
Mais à partir du moment où il a une cigarette et qu'il peut fumer, lui il peut y rester. D'ailleurs, quelques fois, il était assis sur un rocher pendant 3 heures avec sa cigarette. Alors qu'il n'avait pas le droit de fumer, parce qu'on était dans la montagne, c'était interdit. Mais bon, lui ne peut pas.
Un caillou,
pas fumer,
un paquet de clopes, et vous êtes peinard avec Houellebecq. Okay.
C'est vrai qu'on l'avait oublié. Mais je me rappelais, je croyais que c'était la. Parce que quand on l'a vu, avant de tourner le film, on l'avait mis complètement bourré dans la voiture, dans le taxi, allongé derrière le taxi qui était halluciné pour le raccompagner chez lui. Donc je crois que c'était. Enfin, on a plusieurs anecdotes avec lui, invraisemblables, mais c'est quand même un personnage hallucinant.
En quoi il vous touche?
Je sais pas, il a un côté sphinx absolu, il parle pas beaucoup, hein, sauf quand à partir de 2 heures du matin, il commence à s'exprimer, mais non, mais je sais pas, chaque parole qu'il dit, je sais pas, il a un charisme qui est étonnant, c'est-à-dire un charisme de silence, en fait, et je sais pas pourquoi, c'est difficile
ça
à dire
touche.
Chez les gens, oui, ça ouais. Me touche parce qu'il est. Il est, je sais pas, on dirait un petit oiseau, il est tout rabougri comme ça en fin de table, et à la fois tout ce qu'il dit, c'est intéressant, intelligent. Voilà.
Ce souci de propreté, d'hygiène, sa manière de vivre,
c'est... ça c'est hallucinant aussi. C'est... Non, sont, mais ça, je peux pas. Non, c'est un peu pas raconter ça.
Non, mais il se fout royalement de.
Ah, complètement. C'est-à-dire qu'il adore le fromage, par exemple, et dans la chambre d'hôtel. Il mange du fromage au lit, donc et comme souvent il rentre un petit peu fatigué après le repas.
L'été, quoi.
Donc ça,
et vous lui parlez de près après
à 2 heures du matin. Vrai, c'est pas dérangeant, mais moi ça j'adore le fromage. Donc mais il y avait quand on est rentré dans sa chambre à un moment donné, il y avait des croûtes de fromage partout dans le lit. Enfin voilà, c'est énorme, c'est vrai que c'est particulier. Hein, c'est...
Alors, Gus,
le fromage.
Avec... Je me rappelle qu'il avait une grosse valise et quand il est rentré la première fois dans sa chambre, on lui dit bah, qu'est-ce que tu pourras avoir parce qu'on n'avait rien prévu nous comme tenue pour le tournage. Donc il ouvre sa valise et il y avait un slip à l'intérieur, c'est tout, et un livre d'Agatha Christie.
Donc on s'est dit, il confondait les deux parfois.
Il lisait son slip.
Ah ouais, il devait y avoir de la lecture au bout d'un certain jour, d'un certain temps. Le mercredi demain, tu veux dire un autre truc?
Non, je veux dire, je veux pas me moquer de lui parce que c'est surtout pas parce que c'est quelqu'un de vraiment extraordinaire. Et voilà, c'est
son côté clochard céleste.
Voilà, exactement.
Et il faut pas se fier non plus aux apparences et s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur. Mais vous aviez lu les livres avant de le rencontrer?
Ouais, quand même.
Ou c'est le personnage qui vous a attiré, c'est-à-dire ce côté
décalé? Ouais, souvent, c'est vrai que souvent, on a pris des gens dans les films. J'avais pas vu forcément les films qu'ils avaient fait, mais c'était les interviews qui me passionnaient.
Ce qu'il dégageait, quoi.
Et là, non, pour Houellebecq, j'avais quand même lu la majorité de ses bouquins.
Ouais. D'accord. Parlons donc de votre film, ce film qui nous a touchés, ouais. Les Petits Flocons. Il sort demain au cinéma. Il est réalisé, signé par et joué par Joséphine Demeaux. Elle a co-signé le scénario avec Jeanne Héry, qui fait une apparition aussi dans la pharmacie. Ouais. Il y a également Jean-Michel Ribé et Benjamin Charby qui ont participé à l'écriture. Pour résumer, on part à la montagne. Il y a donc Joséphine qui joue le rôle de Vanda, si j'ai bonne mémoire, mais qui est mannequin jambe et qui a une flébite, elle a une jambe qui gonfle, qui enfle, elle ne peut pas skier, c'est le point de départ de cette histoire. Elle est à la montagne avec vous, Grégoire, qui est son mari, avec ses deux enfants. L'un a 15 ans est homosexuel, amoureux, dingue, au point de vouloir se marier. Ouais. L'autre, la jeune fille, c'est la petite princesse sur laquelle Vanda fait une sorte de transfert. Le transfert étant, quand on est petite fille, on tombe forcément amoureuse de son moniteur de ski. Et ça va vous suivre toute la vie. Et en toute histoire, ça sera le syndrome.
Ben, c'est ça. Et ce qu'il y a d'intéressant surtout, c'est que ça lui est vraiment arrivé à Joséphine. Donc c'est quelque chose qui est hyper sincère et qu'elle a voulu retranscrire, qu'elle a voulu sortir, parce que pour elle
c'est autobiographique, comme un premier roman.
Bah c'est ça, là je vais parler un peu en son nom, mais c'est vrai que c'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'à un moment donné elle s'est posée chez elle et elle s'est dit mais en fait la vie c'est pas du tout ce qu'on nous raconte quand on est petit, et encore moins quand on est au ski en vacances. On est guidé par une espèce de
beau mec. Pas,
de beau gars bien tout en rouge, qui dit que, enfin voilà, qu'on suit, ouais aussi. Hein. Vous avez bien joué.
Alors aussi, non, il faut préciser que et Albert et moi, nous avons un pull rouge aujourd'hui. C'est pour ça que.
Mais vous n'avez pas le fuseau qui galbe les cuisses de.
Vous avez été très professionnel.
Non, c'est vrai. Non,
c'est vrai. Ça marche quand même. Le blue jean.
Je te remercie.
Je t'en prie.
Il se passe un truc, les gars.
Oui, oui.
Il se passe un truc entre nous.
C'est vrai que c'est très moulant.
Et donc, au milieu de cette famille qui va au ski et des tribulations de cette famille, débarque un ex-tolard. Il sort de prison. Ouais. Et en fait, le seul lien qu'il y a entre la famille et vous, c'est que cette mannequin de jambes était votre visiteuse
de prison. C'est ça, c'est un peu le comique de situation, c'est-à-dire que moi je débarque vous connaissez les petits appartements quand on va au ski, c'est quand même promiscuité absolue, et donc je débarque.
On peut pas ouvrir une porte sans taper dans chose.
C'est terrible.
Donc j'arrive dans cette famille qui m'accueille, sauf que Grégoire bien sûr n'est pas très très content de me voir, mais comme elle est. C'est une bonne samaritaine, elle me reçoit et voilà, elle veut que je me détende un peu, elle veut que je revoie ma fille qui habite dans la région, enfin voilà, ça fait partie de ce côté bonne action.
Il n'y a aucune ambiguïté entre elle et vous, c'est vraiment la main tendue, la générosité, la bonne action. Ouais. Lui est réellement en train de sortir de sa condition de tolard, mais aussi des raisons pour lesquelles il s'est retrouvé en tôle, donc il est sur la bonne route. Sauf que on peut pas dire que ce soit les mêmes habitudes de vie. Ouais. Ça pourrait être un peu Michel Houellebecq qui débarque dans une famille normale. Ouais, il est un peu cracra, il est un peu désordonné.
Il y a du fromage.
La raclette.
Et puis c'est un peu le boulet, quoi.
Ouais, c'est le boulet qui va un peu être le détonateur, justement, de tous les problèmes qu'il y a dans cette famille. Et le catalyseur de tout ça, de toutes ces mauvaises énergies qui rôdent dans cette famille. Donc effectivement, chacun va se dire ses quatre vérités, puis ça va partir un petit peu en live avant reprendre un chemin plus normal.
Et c'est le seul interlocuteur drôles. Avec les enfants aussi. C'est surtout ça.
Je me rapproche des enfants parce que moi je me suis coupé de ma fille, donc je vois une petite fille qui est là de la famille. Et donc il y a cette relation qui se noue entre ce taulard tatoué et cette petite
fille. Ce qui est drôle, c'est que finalement, Grégoire, vous êtes le seul mec un peu normal de la bande. Ouais. Quand je dis un peu normal, je parle au sens du voilà, vous êtes
du cadre.
Ouais, exactement. Ouais, ouais. D'ailleurs, je me demande si vous n'êtes pas un cadre dans la vie. C'est-à-dire, c'est le gars qui est organisé avec voilà ce qui se fait, voilà ce qui se fait pas, voilà comment ça se passe. Là, ça vaut la peine de discuter ou de s'engueuler. Non, on va pas s'engueuler pour ça. Vous êtes le mec le plus raisonnable, le moins poète, pardon, dans un premier temps, de tous les autres qui ont leurs amours, quelles que soient ces formes d'amour, qui ont leur délire, et c'est vous qui subissez tout, mais qui êtes aussi un peu le point central de l'histoire.
Bah oui, c'est ça, c'est Thomas, c'est un peu le chef d'orchestre. C'est bon, bah là, c'est les vacances au ski, donc les vacances au ski, on va skier et il n'y a pas de problème. Là, c'est la semaine où on y va et ça va être cool, il va faire beau, donc les problèmes, on les range. Toi, t'es amoureux, ça se passe pas bien, c'est pas très grave, on verra comment ça se passe. Sa femme.
Mais t'as 15 ans, tu vas pas te marier à 15 ans.
Non, en plus, voilà. C'est-à-dire que, sans raconter le film, son fils lui dit qu'il est homophobe, mais c'est pas du tout ça, c'est pas de l'homophobie, c'est juste, on va pas se marier à 15 ans, que ce soit avec un garçon, une fille, n'importe qui, tu ne te marieras pas à 15 ans. Il ne voit pas que sa fille est hyper,
fleur bleue.
Embourrachée de
Thomas Simeka. Voilà,
de Thomas Simeka, le moniteur. Et que sa femme,
elle
lui dit, mais c'est quoi ton problème? Je comprends pas. On devait aller à 17h, on devait faire la bleue, et après on devait aller à la raclette. J'arrive pas à piger, en fait. Je suis désolé, je comprends pas.
Vous êtes la norme, en fait. Vous êtes
c'est la norme, mais.
L'icône de ski.
Ouais. Voilà, mais trop rangé, quand ça dépasse, ça marche pas.
Ça.
Et lui-même aussi se laisse un peu, se laisse un peu embarquer avec la monitrice qui trouve très très jolie, etc. Et comme ça se passe pas bien chez lui,
le casting a été bien fait parce qu'elle est en plus au-delà d'être bonne comédienne.
Oui, tout à fait.
Elle est jolie.
Oui, tout à fait. Elle est très jolie et c'était.
Ce qui doit aider à jouer le rôle.
C'était super. Non, et voilà, c'est vrai qu'il est un peu dans la norme. Et quand il rencontre
Marie-Ève Musy, si je cite la comédienne qui
tout
joue
à fait.
Le personnage, votre monitrice.
Exactement. Et Vanda, d'ailleurs, est bien déçue que ce soit une monitrice face à la...
T'inquiète.
Au départ, elle demande, mais c'est qui alors qui est votre moniteur? Je dis, non, c'est là-bas, elle est là-bas, c'est une femme. Ah d'accord, donc il y aura pas de problème particulier.
Non mais
malgré tout pour elle, vu qu'elle c'est les moniteurs qui l'a un peu transpiré.
C'est ça. On peut parler de il y a deux guests extrêmement populaires dans le film.
Ah je suis pas sûr qu'il faille en parler parce que je trouve c'est une chouette surprise.
J'étais sûr qu'il allait que
j'en
parlais pas en parler.
Ok j'en parle pas. Non si vous voulez
pas. J'en parle pas.
Il y a deux stars mondiales dans le film. Voilà point de suspension. Ok. Ça c'est fait, ouais. Ça c'est dit. Et ce film, il est à la fois drôle avec. Alors comment qualifier l'humour? Parce qu'il y a des moments où c'est trash, c'est violent et c'est drôle, c'est absurde. Enfin, je sais pas dans quelle catégorie le mettre tellement. Et puis il y a des émotions, il y a des moments où on a les larmes qui montent, on a la gorge qui se serre. Je sais pas comment définir cette comédie. Gus.
C'est difficile. C'est vm Joséphine qui a voulu. Enfin, moi, par exemple, j'aurais pu faire un personnage très caricatural. Et elle m'a dit toujours de le jouer. Enfin, elle voulait pas que ce soit une grosse comédie où on joue vraiment sur les gags absolus.
Personne ne surjoue. C'est là où la direction est bonne. C'est-à-dire qu'en effet, ça aurait pu être très tarte à la crème et
du taulard qui arrive dans la famille. J'aurais pu en faire des caisses.
C'est pas le cas.
C'est pas les bronzés font du ski. Quoi. Non, ça n'a rien à voir.
C'est son univers à elle.
On n'est pas loin c'est pas les bronzés font du ski au sens c'est Gérard Jugnot qui faisait tomber tous les skis qui attendent devant. Ouais. Mais il y a quand même tous les clichés, je dis pas au sens péjoratif du terme, enfin tous les repères que l'on peut avoir quand on a la chance d'aller à la montagne, parce que faut pas oublier que c'est pas le cas non plus de tout le monde, c'est-à-dire
tu le vois au prix des remontées mécaniques dans le film déjà.
Exactement. La vache.
Les queues remontent. Les restaurants où on sent le graillon et on est tous entassés les uns sur les autres, qui peuvent en effet les soirées qui peuvent mal tourner, l'alcool qui vient pour réchauffer le froid extérieur et qui peut faire monter le sang, le faire bouillir. Enfin, il y a tous ces repères là que l'on a et vous en servez pour faire rire.
Mais Joséphine voulait que ce soit très quotidien en fait. Elle disait que j'ai envie que les gens qui vont aller le voir en salle puissent se rappeler leur sensation de s'identifier à leurs vacances au sport d'hiver. Et c'est vrai que c'était, en fait, je pense que s'il fallait décrire un humour, c'est toujours hyper compliqué, mais je pense que c'est vraiment un humour du quotidien, en fait. Un jour, il se passe des choses un petit peu absurdes.
Avec beaucoup de poésie.
Bah, c'est hyper poétique. Ouais, c'est de toute façon, Joséphine en soi, elle est très très poétique, tout à fait.
En tout cas, c'est un film que nous vous recommandons et en famille, qui a fait partie de la sélection l'Alpe d'Huez en 2019 et qui est touchant. Je n'ai pas cité les autres comédiens, pardon. Il y a Thomas, donc Simeka, Adèle Gillin, Alix Gavoil.
Oui, les Chiens de Navarre, c'est un très très bon comédien de théâtre et aussi au cinéma qu'on voit régulièrement.
Une combinaison moulante aussi.
c'est le moniteur. Mais moi, j'ai eu
t'es
le syndrome.
Tu es jaloux,
Non, moi j'ai eu le syndrome aussi du moniteur de ski quand j'étais petite. Bah, bien sûr, ils sont sympas, ils sont beaux. Non, mais vraiment. Ils sont là, ils t'enveloppent, ils viennent te ramasser quand tu tombes, ils te font un petit bisou. Bon,
non,
mais
franchement, aucun qui m'a enveloppé. Hein.
Bah ouais.
Il n'y avait pas de petit bisou.
C'est-à-dire que moi j'ai plus eu affaire à des menuisiers charpentiers. Non, mais le reste de l'année ils sont menuisiers charpentiers et aussi ils sont moniteurs.
Mais même les vieux moustachus ils sont sympas, tu vois. Même les vieux moustachus.
Dont une grave. Pardon, même les.
Les vieux moustachus, les vieux moniteurs comme ça qui avaient les vieux fuseaux, parce que là dans le film on a la combinaison, mais le vieux fuseau hyper moulant comme ça, qui ont un petit côté mec de la montagne, ils étaient toujours hyper gentils.
D'accord. Ouais. Ok, mais j'avais pas. C'est pas très sexy quand même les combinaisons de ski, je vois
tu
pas.
Tu plaisantes quand il est devant toi avec son fuseau très très moulant, très fléchi, avec un super mouvement. C'est beau.
Ouais, maintenant c'est bien fait. Ouais, c'est vrai que là on y a passé un mois et demi, c'est vrai que c'est quand même bien fait.
Ouais. C'est vrai que maintenant il y a
c'est vrai que la scène, il y a une scène où vous jouez du déhanché en tout cas pour simuler.
Ah oui, voilà.
Et justement, elle le dit, Joséphine, enfin Vanda dans le film, c'est pas sexuel.
Ouais, elle aime à le répéter d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose
un
qu'elle
peu trop
subit.
Bon, ça soit honnête.
Ah, ça, faudra voir ça
directement avec elle.
Je vois ce que vous voulez dire.
Allez voir ce film. D'abord, c'est un film familial parce qu'on parle de l'humour, on parle des vannes, mais en tout cas, tout le monde peut les entendre ces vannes-là. Il y a rien de choquant. Ouais. Ça peut pas être genre et moins de 10 ans n'y allez pas parce que c'est trop trash. Non, c'est très familial et puis ça vous parlera exactement. Ouais. Passera un bon moment et c'est touchant. Père Albert, c'est un succès ce film. Annoncez les petits flocons.
Mais bien sûr, Nangui. Tout d'abord parce qu'il s'agit d'un film qui, comme la neige, ne peut pas mieux tomber. Je viens de faire une image opportune, hein, comme vous tout à l'heure. Bref, à l'heure où on nous bassine avec le réchauffement climatique, la mort des pingouins, c'est bon. Oh oui, c'est bon. Un film hivernal, trash, drôle, émouvant, dans lequel la neige joue un rôle primordial. Neige dont je m'étonne d'ailleurs qu'elle ne figure point dans les crédits ou les remerciements du générique des petits flocons. Car tout de même, sans neige, pas de petits flocons. Et sans petits flocons, pas de film. Et donc pas de Thomas incarné par Grégoire Ledic. Coucou Grégoire.
Coucou.
Pas de Samy alias Gustave Kerpen. Coucou Gustave. Coucou. Film hivernal, donc, mais aussi très familial, comme vous venez de le dire, Nangui, qui fait du bien en cette époque d'apologie de la PMA et du mariage pour n'importe qui. Au fait, je vous ai pas vu, Nangui, à la manif pour la marche pour la vie.
Si, j'étais côté de...
Ah, d'accord.
Des CRS.
Très bien. En revanche... Je vous ai entendu, Nangui, juste avant l'émission, tabasser moralement JNB, notre rédacteur chef, à qui vous veniez de demander de quel film il allait être question ce matin. Quoi ? Encore un film de ski ? Mais ras-le-bol des films de ski ! Chaque hiver, on a droit à un film de ski. Et encore, avant au moins, c'était de la compète avec première étoile, puis deuxième étoile. L'an prochain, on aura droit à troisième étoile, puis à chamois de bronze, flèche d'argent, luche de fer.
Si, on a compris, mon père, on a compris.
Mais là, franchement, les petits flocons, t'as pas un titre avec plus de testostérone ? Mais, oh mon maître, petit flocon, c'est une super comédie douce amère sur la nostalgie de l'enfance. Mais je m'en fous de ta mère! Le ski, je hais ça, il fout jamais les pieds. Je hais la nostalgie, l'enfance, les sports d'hiver, la tartiflette, ça me donne des gaz. Bon, fais quand même entrer Gustave et Grégoire et passe-moi ta fiche.
Ça va, Albert?
Voilà, oui, très bien, voilà. Je suis ému. Voilà, c'est le froid ce matin. Je suis venu à pied. Hein,
mais savez-vous quel personnage vous faites maintenant au niveau des voix?
Mais c'est moi-même. Moi-même.
Okay. Ouais, t'es paumé.
Moi, je serais toi, je prendrais des couleurs différentes. Parce que là, tu sais même plus où tu es.
Mais on m'a piqué mon stabilo.
Ah, d'accord.
Voilà, cher Grégoire, cher Gustave.
Maintenant, avec la pub, tu vas recevoir gratos.
Comment se prépare la bande originale dans la détestation de la famille, la haine des sports de glisse et le dégoût des plats régionaux? Alors, juste une petite annonce, si vous le permettez. avec, c'est le père Albert, hein, oui, oui, bah, oui. Donc dès que le grand lac du bois de Boubou sera gelé, j'organise pour les jeunes en recherche qui me connaissent un stage d'initiation au patin. Alors en attendant que la glace prenne, ça se passera dans ma camionnette, bah, chez Cuir Clouté, noir. Et Gustave, tu peux venir avec ta médaille de la Sainte Vierge. Tu seras bienvenu. Bonne émission à tous.
La bande originale, Maggie. Sur France Inter.
Alors, il y a sûrement un travail psychanalytique pour Joséphine Demeaux. D'ailleurs, elle vous l'a expliqué, elle vous a dit c'est mon histoire, c'est comme vous l'aviez dit tout à l'heure Grégoire, elle a fait un travail sur elle dans sa vision de ce prince charmant qui sauve et qui sait tout et mieux que tout le monde, le moniteur.
Ah, je sais pas si elle a fait un travail. En tout cas, elle s'est rendue compte que tout ce qu'elle pensait quand elle était petite, c'est archi faux et c'est faux. Et c'est ça qui lui a fait du mal. Et en fait, je pense qu'elle, elle aime à dire qu'avec Gustave, on est des grands enfants, entre guillemets. Je pense qu'elle, elle l'est aussi. Et là, c'est un petit peu son passage, son réel passage à l'âge adulte qui fait que bon, allez, ça, en fait, c'était pas ça. Maintenant, bah, il faut se relever tout seul. Et puis, il n'y a pas que un beau mec qui nous, ouais, qui nous montre où faut tourner en godille, etc., etc. Donc oui, je pense que ça a été une sorte de, petite thérapie.
C'est,
je sais
pas, Adèle, c'est Adèle Gillin qui interprète donc entre guillemets le rôle de Joséphine Petite, puisque les rôles sont inversés. Là, elle devient maman de la petite, qui est vraiment. Alors là, le casting aussi super bien fait. D'abord, elle joue extrêmement bien, et c'est vraiment la petite fille, princesse.
Gueule d'ange.
Ouais. Ah ouais, exactement. Ouais, ouais. Boucle d'or. Ouais, ouais. C'est boucle d'or. c'est extrêmement agréable. On parlait avec Omar si hier de du plaisir de jouer avec des enfants. Vous l'avez ressenti, Gus? Il y a les,
ouais,
les, ouais, bah, t'as beaucoup de scènes avec les enfants en plus.
Ouais, ouais. J'ai fait un film qui s'appelait Cigarettes et chocolat chaud avec,
oui, super
avec
beau
déjà
film.
Deux enfants. Ouais. Non, effectivement, mais je trouve que les enfants de maintenant sont vraiment surprenants. Moi, ça me sidère de les voir.
Leur maturité, tu veux dire?
Leur maturité, ils ont peur de rien. Enfin, moi, je sais pas, mais moi, à leur âge, j'aurais été tétanisé de faire. Non mais c'est vrai, à chaque fois que même quand je vois The Voice, les enfants qui arrivent, qui chantent comme ça,
Avec zéro track.
Zéro track.
Ouais, c'est fou. Ouais, je suis d'accord.
C'est vraiment à analyser.
Mais parce que je pense qu'ils ont apprivoisé le micro, la caméra, maintenant avec les téléphones, on arrive à filmer, ils maîtrisent l'image. Alors que dans les années où on était gamin, tout le monde n'avait pas de caméra et c'était pas possible de voir ce que ça donne.
Exactement. Et puis à ce côté, rencontrer un artiste connu pour eux, ça paraît normal. Ouais. Alors que nous, quand on était petits, on rencontrait n'importe quel chanteur connu, on était là, mais les mots ne sortaient pas.
C'est vrai.
Mais eux, tu vois, c'est même.
Moi, j'avais vu le président Coty.
C'est inquiétant. Ça va peut-être devenir des psychopathes.
Je suis d'accord avec
Gus. Non, mais il y a un rapport à l'émerveillement qui est différent, quand même.
Ouais. C'est-à-dire que je pense que les enfants restent.
Je pense que c'est mort.
Non, je pense que les enfants restent en admiration devant des vedettes. Ils contrôlent mieux et surtout, ils sont pas aveuglés par la notoriété. Ils savent quand même que la vedette est quand même quelqu'un de normal. Alors, ça reste. Je peux demander un autographe. Ils demandent des selfies, mais ils vont pas faire comme nous les porter, les idéaliser. Mmh. Voilà, ils sont plus accessibles. Totalement d'accord. Mais en tout cas, vous jouez et la scène, c'est vrai, Agnès a raison. La scène où vous parlez de drogue avec les enfants, non plus, on va pas divulgâcher le film, mais elle est dinguissime, de drôlerie et de naturel
et d'information.
Ouais, c'est pédagogique.
Et d'information. J'ai appris des trucs, moi. J'ai appris des trucs sur la drogue.
C'est l'école à la maison.
Et à propos de scène de scène drôle, là c'est vraiment une scène qui, à mon avis, peut revenir. J'ai pas vu la bande annonce, donc je ne sais pas ce qui est dans la bande annonce, ce qui n'y est pas. Là, j'ai mal fait mon travail, j'aurais dû la regarder cette bande annonce. Mais la scène où vous êtes dans le télésiège avec deux adultes et un chien, celle-là aussi avec les vannes sur la drogue, elle est juste parfaite. Elle est dinguissime. C'est dans la bande annonce. Bah, très bien. Donc comme ça, j'ai rien divulgaché. La drôle d'humeur maintenant d'Agnès sur Stel, c'est maintenant tout de suite. Là.
Bonjour, ça va vous?
Bien.
Ouais. Moi j'ai un petit peu honte parce qu'hier au lieu de me laver, j'ai maté en intégralité le live de Benalla sur Public Sénat. Voilà, chacun ses vices, chacun ses vices. Daniel c'est le sudoku et les chemises cheloues.
C'est vrai.
Moi c'est le Benalla. 2 heures de kiff absolu à voir mon gros Benalou si calme, si doux, pas belliqueux pour un sou avec ses petites lunettes de premier de classe, petites bouclettes, gélifiées, crantées un peu à la Betty Davis, un petit look Clark Kent en fait. Et du coup finalement je me dis qu'il est comme nous Benalou, il est bigou. Le jour gendre idée. idéal en petit blazer bleu marine. Mais la nuit, c'est comme un gremlin. Faut pas lui montrer un passeport diplomatique, une matraque ou un manifestant. Ça le rend fou. Je pense qu'on a tous quelque chose en nous de Ben Ali.
Oh non.
Si. Hier, il n'a fait que répéter d'une voix chaude et profonde. Alors, je suis vraiment, vraiment désolée. Je vous comprends, mais je préfère ne pas vous répondre. Non, je ne répondrai pas à cette question, ni à celle-là, ni à celle-là, ni à celle-là, ni à celle-là non plus. Désolée, monsieur le co-rapporteur. Alors déjà, il faut savoir que moi, le mot co-rapporteur, ça me fait des papillons dans le bas du ventre. J'ai l'impression d'être à nouveau en CM2 dans la cour de récré quand on allait prendre en photo les garçons dans les toilettes avec mes copines et que Laure Dourichon, elle nous avait grillé et qu'elle menaçait d'aller le dire à la maîtresse et que nous, on s'en était sortis à l'ancienne en lui filant des pogs et deux couilles de mammouth pour pas qu'elle nous délationne, cette petite garce. Bref, Ben Alou nous dit « Je ne détiens aucun secret et je n'ai plus de contact avec qui que ce soit. Et même je ne savais pas que j'avais un téléphone crypté, il était dans mes cartons, dans un placard, dans une cave, voilà, je le jure, Ben Alou. En fait, on dirait moi quand j'ai fait une bêtise et que mon mec le sent. Tu sais, quand il demande un peu énervé si c'est normal, vraiment, que ton ex t'envoie 4 textos d'affilée un lundi soir alors qu'on est au lit et que toi tu réponds « Alors là ?» je ne sais pas. Et je n'ai plus de contact avec lui, ni avec qui que ce soit. Ça m'étonne même que ce GSM soit sous la couette et non pas actuellement dans la cave, dans un carton avec les vieux passeports. Je lirai les textos demain, bébé. De toute façon, à mon avis, c'est rien. Sa grand-mère a dû mourir, t'inquiète pas. Alors que ça fait 2 jours que vous chattez avec votre ex. En fait, non, ça fait 2 ans que vous chattez avec votre ex. Et que t'arrives pas à lui dire ça à ton mec, parce qu'au fond, toi aussi, t'es un peu une petite garce, et que t'as pas envie que ton mec soit ami avec son ex à lui, et qu'il se fasse des SMS, et qu'ils aient des co-rappeurs, et qu'ils communiquent, et qu'ils coagulent, et qu'ils covoiturent, et qu'ils copulent. De toute façon, aujourd'hui, tout ce qui est avec un co-quelque chose, c'est de la merde, hein. Je suis désolée, mais la coloscopie, j'ai perdu mon ex, la codéine, collabo, co-lanta, co-animer une émission avec Hanouna quand on est ministre de l'égalité homme-femme, co-co-co, c'est nul. Octogone, ouais, hashtag. Bref, du coup, tu fais comme si t'étais pas ami avec tes ex.
Colonisation, ouais.
Claudine, bref, c'est bon sans temps. Fin. Du coup, tu fais semblant que tu n'es pas ami avec tes ex, alors que tes ex, après tout, ça reste des gens que tu as aimés. À la base, avant de les haïr, tu les aimais. Il le sait, ça, Ben Alou. Il l'aime, son ex, il le protège, il fait semblant. À la fin de l'audition, carrément, on dirait moi quand je me serais faite larguer par mon ex. Il dit « J'essaye juste de reprendre une vie normale, de me refaire par moi-même. Derrière ma carapace, il y a un homme, une situation personnelle troublée. On a construit autour de moi un personnage sulfureux, diabolique, infréquentable. » Bon, là, Ben Alou, tu te calmes quand même. Tout le monde rêve d'être sulfureux, infréquentable et diabolique. N'en fais pas trop. Bref, ce matin, moi, j'aimerais juste remercier mes ex.
Ils sont on n'aura pas le temps, on s'arrête à midi.
Merci, merci mes ex, merci messieurs. Vous m'avez nourri. Et grâce à vous, je comprends Ben Alou. Cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous, avec ses mots à lui, on a tous quelque chose en nous de Ben Alou. Bonne semaine.
Merci, bravo. Bien sur scène.
France Inter. Maggie, la bande originale.
La musique est présente également dans ce très bon film Les Petits Flocons.
Le syndrome bonnet.
J'adore. Il y a aussi alors comment expliquer, alors la scène la plus émouvante évidemment, le a cappella de Greg, alors ça tu sais que je suis à deux doigts de te demander, mais non, t'as raté à le faire, hein.
C'est vrai,
bah, écoute, non mais chantez juste a cappella Boney M, qui est le groupe qui n'a jamais chanté, ouais. pour la petite histoire, c'est un faux groupe, Boney M, c'est un groupe de choristes,
bah, on aimerait bien qu'ils chantent, bah.
Et c'était des mecs et c'était des danseurs en playback qui faisaient la promo. Comment expliquer alors ce délire sur Boney M, en fait, dès qu'elle a peur, Joséphine, elle se rassure avec Boney M en chantant a cappella un Boney M.
Bah c'est ça, c'est son petit médicament à elle, dès qu'il y a une période de stress ou quoi, elle se pose et elle se met à chanter du Boney M. Et j'aime bien ne pas trop expliquer ça, parce que c'est vrai que ça tombe dans le film où tu fais... Hein ?
Exactement.
Quoi ?
Exactement, c'est ça.
Et en fait, c'est... Oui, et dans la scène de fin, effectivement, Boney M est assez
important.
Présent.
Voilà, exactement. La musique
c'est
dans
très romantique, d'ailleurs.
Ouais, totalement. Ouais, c'est comédie romantique, à ce moment-là.
Ouais, c'est vrai.
C'est ça. On n'est pas dans une gare avec un couple qui court l'un vers l'autre au ralenti. On est à la montagne, mais ça le fait. Ça marche. Et c'est
courir avec les chaussures de ski, ça aurait été un peu nul de se retrouver.
Le moniteur, lui, peut le faire. Oui, le moniteur, il a tous les droits.
Je suis pas sûr.
C'est le blond. C'est le sketch. C'est le sketch de Gad Elmaleh. C'est le blond de Gad Elmaleh. C'est-à-dire, lui, il peut tout faire. Musique dans vos vies, Gustave, dans la première moitié des années 2000, vous écoutiez.
Tout lui, tout brille, mais rien ne brûle.
Tout brille. Programmation France Inter.
Mais rien ne se
programmation buvette aussi, France Inter.
C'est ainsi. Tous en vie.
Mieux c'est qu'il a le coup de il a le coup de breton quand même.
Quelque chose. Ah oui, rien à voir avec son œuvre. Si, boire peut-être.
Je parle de sa santé, oui, c'est ça. Ouais. Brûle, mieux sec. Ça vous évoque quoi? Vous écoutez mieux sec? Vous avez quelles images?
Non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je suis le mec qui a le record, de, je pense, du monde, du mec qui apparaît très deux secondes dans des clips. Alors c'est marrant, si vous allez voir le clip de Brûle, j'apparais à peu près deux secondes. Il y aura un deuxième clip tout à l'heure aussi, mais effectivement, non, il était à Saint-Jacques-de-Ferrat, j'étais à Nice. Il m'a dit, viens, si tu veux pas tourner un clip avec moi.
Mais donc vous êtes pote.
Ouais. Ah. Déjà, c'était en 2001, donc... Et je déboule et en fait donc je tourne pendant deux heures et puis je m'aperçois après dans le clip bien sûr comme d'habitude que j'apparais deux secondes mais j'adore cette chanson puis j'adore Mio Sec,
c'est un mec bien.
Puis
vous
avez réalisé un clip pour lui aussi.
Ouais, j'ai réalisé après là pour le coup j'apparais 10 secondes dans
bien.
Le clip
vous
là
c'était 2 secondes.
Il y a un progrès, ouais, j'ai réalisé un clip avec lui sur l'île d'Ouessant, enfin c'est vraiment un bon mec qui m'a fait découvrir aussi le vin sans alcool. Je savais pas que ça, le vin blanc sans alcool, ça s'appelle Bonne Nouvelle.
Ah ouais.
Il a arrêté de boire depuis longtemps maintenant. Et non, mais c'est, je sais pas, c'est un mec de peu de mots, hein, comme les Bretons, mais je sais pas.
En fait,
mais
il est choisi bien.
Il est choisi bien. Ouais.
Et pour cette première moitié des années 2000, Gustave, on vous retrouve avec Benoît Delépine pour votre premier film, Altra.
Ouais, c'était en 2003. C'est la date que, enfin, c'est une des rares dates dont je me souviens parce que c'était la grosse canicule de 2003 ouais. Avec tous les morts dans les maisons de retraite. Donc je m'en rappelle. Mais ouais, notre premier film un peu fou.
Un road movie
en chaise roulante. Ouais, voilà, qui va de Picardie en Finlande. Pour rencontrer Aki Kaurismäki, le réalisateur finlandais. On avait fait ce film juste pour aller boire un coup avec lui. Et en fait. On n'avait pas de distributeur, on n'avait rien, puis on a fait ce film juste comme ça, on est parti à 8 dans une camionnette, on a fait tout le voyage jusqu'en Finlande, donc c'était assez fou. Et...
À propos de film, vous avez joué avec Mio Sec aussi, il était un curé dans le film
ouais,
de votre
voilà, exactement,
femme.
Fleur de tonnerre, oui, ben, oui, on se suit, on se voit pas souvent, mais en tout cas, non.
Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que quand quelqu'un est dans votre famille, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est...
Ouais, mais
et ça marche dans tous les sens.
On essaye d'ouvrir quand même au maximum le clan des pirates. Là, Jean Dujardin, par exemple, c'est avec lequel on a fait le dernier film, c'était pas un pote, quoi. Enfin, on le connaissait pas plus que ça, mais on sentait que c'était un bon mec, donc on s'est dit, voilà, on va ouvrir un peu le.
Et c'est le cas.
Ça, c'est le cas, et voilà, on essaye quand même d'aller chercher d'autres.
Vous avez déjà été déçu. Je parle pas de Jean qui est en effet un bon mec, mais est-ce que, sans citer de nom, est-ce que vous avez déjà été déçu en disant, je pense que cette personne fait partie de, est sincère, ou fait partie de notre, ouais. À nos valeurs, entre guillemets.
Non, pour l'instant, dans tous
vous
les gens
planté.
Qu'on a pris.
Ouais.
Il n'y a pas eu de tête de con. Non, ça va.
L'émission n'est pas finie.
L'émission n'est pas finie, mais à propos de fin d'émission, la dernière fois, vous étiez venu avec Benoît de Lépine et vous aviez rendez-vous avec Brigitte Fontaine.
Ah oui, bah ça y est, le projet se met en route. On va tourner normalement. Pareil, ça fait partie de nos petits films, comme celui qu'on a fait avec Michel Houellebecq. C'est-à-dire que on fait pas des gros films, hein, à part ça, c'est des petites équipes. Hein, on est, je crois, une vingtaine quand on fait des ce qu'on appelle des gros films, celui avec Jean Dujardin. Mais là, on repart dans un petit truc à 5-6, et on va avec Brigitte Fontaine à Morlaix, parce qu'elle est originaire de Morlaix. On a écrit un petit scénario un peu poétique avec elle. On lui a présenté ça il y a deux jours, et c'était assez marrant d'aller chez elle.
Et donc ça va le faire.
Ça va le faire. Elle a dit deux, trois petits trucs à changer, mais elle est OK.
Et ça s'appellera comment?
Ben, Morlaix, mais mort, la devise de s'il vous morde, Morlaix, donc ça s'écrit à Morlaix.
Le verbe mordre est plus loin, L-E-S. D'accord. Ouais. Quant à vous, Grégoire Ludic, vous écoutiez.
J'adore.
Ouais, on
switch un peu.
Au summum.
Ouais.
Et là, vous avez quelles images qui défilent en écoutant ça?
Beaucoup là, j'ai des images de mes potes et moi, des débuts des années 2000, où on écoutait, enfin toujours d'ailleurs, beaucoup de rap, et beaucoup le 113 d'ailleurs. Et celui-là, j'aimais bien, c'était un peu le passage du rap qui commençait à devenir un peu électro. Et je crois que c'est DJ Mehdi qui a fait cet instru, je suis pas sûr, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais voilà, toute cette mouvance et tout, ça suit, on continue d'écouter.
Un rap R&B quoi, c'est beaucoup
oui,
plus.
Oui, parce qu'il y a une chanteuse, mais on est quand même sur du.
Ouais, absolument.
Ouais, donc c'est vraiment l'époque de la majorité, le permis, ouais. L'époque qui commence. Enfin, on les virait entre copains, c'était. Voilà, c'est ça. C'est un peu,
et Men in Black.
Et Men in Black, oui, c'est l'un des spectacles dans lesquels vous produisez avec David.
Tout à fait.
Il y avait Ambiance aussi que vous jouiez à l'époque à la salle de loisirs de la Queue les Yvelines.
Exactement. dans les Yvelines, bien sûr. Très fier des Yvelines, oui, c'était des. En fait, c'est ça, avec David, on a toujours, les mercredis après-midi et les samedis et les dimanches, on écrivait des sketchs, on les tournait avec la caméra du père de David. On appelait tous les potes, on continuait, puis on a appelé notre premier spectacle Men in Black, qu'on a joué à la salle des fêtes de La Bonnette, d'ailleurs, avec les Yvelines, c'est ça.
Bien nommé.
La Bonnette,
Et qui dit que dit Bonnette.
Bah, exactement, l'un ne va pas sans l'autre. Ensuite, c'était à Montfort-la-Maurie, enfin bref, on est resté très, très attaché et très fidèle aux Yvelines. Et tout à fait, avec le 113 en fond.
Et David Marseille, parce qu'on n'arrête pas de dire
David Marseille qui est avec moi.
Voilà, pas de macho.
Voilà, avec moi dans le pas de macho.
En 2010, Gustave Kervern, vous écoutiez.
Courir à perdre haleine, sous les étoiles, on nous voit à peine.
Qu'est-ce que c'est bon ça.
Ouais. Les dilemmes.
Super concert en plus.
Dis-moi encore que tu l'aimes.
Gaëtan Roussel.
Alors ça c'est pareil, donc il me dit de venir faire son clip et là j'apparais 4 secondes dans ce clip là, donc si vous allez voir sur
YouTube.
Internet.
Il a fait la musique aussi d'un des films.
Oui, ça correspond à cette période là où on l'a rencontré effectivement pour faire la musique de Mammouth, le film qu'on a fait avec Gérard Depardieu. Et je trouve que on a un rapport bizarre avec les musiques de films, c'est-à-dire on ne sait jamais s'il faut les faire avant, pendant, après. On n'aime pas trop que ça mette des musiques qui servent à rien dans un film. Donc je trouve que là, il a fait une musique vraiment
utile
ouais. et qui a participé vraiment au succès du film.
Et pour continuer l'histoire que vous avez eue avec Miossec, c'est Gaëtan Roussel, moi, qui m'a fait découvrir un vin bio sans pesticides.
Avec alcool.
Parce que, il est très branché, vin.
Très branché. Très branché.
Et pas d'aigreur.
Alors, pas d'aigreur, mais tu peux quand même te prendre une cuite avec. Je te confirme.
Expérience. On revient à Mammouth. Ce que j'adore les films que vous faites tous les deux avec Benoît et surtout les pitchs des histoires. Parce qu'en deux phrases, on a l'essentiel. Vous nous repitchez Mammouth.
Mais c'est pas toujours le cas, mais c'est vrai qu'on a des films qui sont impitchables quand même. Mais celui-là, c'est un gars qui vient d'être à la retraite, donc Gérard Depardieu, qui s'aperçoit qu'il a pas tous ses papiers et qui est obligé. D'ailleurs, c'est le cas de souvent.
Beaucoup de gens.
Il reçoit son plan de, enfin tous ses boulots, et il s'aperçoit qu'il lui manque des papiers, donc il va repartir avec sa vieille moto, une Mammouth. Pour aller dans les entreprises pour chercher ces fameux papiers qui vont lui permettre de toucher sa retraite.
Justifier de ses trimestres de cotisation.
C'est un rêve qu'a fait Benoît.
C'est un rêve qu'on fait tous quand on reçoit justement ce fameux truc à 40 ans, le relevé de carrière.
Oui, on fait le point sur
le relevé de ta vie.
Et donc c'est marrant de revoir tous les boulots, même les petits boulots que tu faisais, les petits jobs.
Il y a le moindre petit job.
Donc c'est vraiment étonnant quand tu reçois ça. Et ça, c'est ça qui nous a donné l'idée de faire ce film.
Grégoire Ludig, à ce moment-là, vous écoutiez.
T'as compris. La la la. C'est une mélodie.
Ouais.
Thierry Pastor.
On écoute vraiment les mêmes choses avec Gustave, je trouve.
Mais j'écoutais Thierry Pastor, j'étais fan absolu. Fan absolu, pas exagéré non plus.
Et à ce moment-là.
Le Palmacho débarque à la télé.
C'est pour ça, voilà. Ouais. Thierry Pastor, c'est un clin d'œil à cette arrivée sur Direct 8. Il y avait. Je crois que Thierry Pastor est dans bien. Des sketchs et parce que ça nous faisait rire à l'époque et d'ailleurs je pense que je sais pas si on a parlé d'SACD avec lui ou de SACM ou j'en sais rien mais bon en tout cas oui on aimait bien mettre Thierry Pastor
de droit d'auteur
tout à fait parce que Je sais pas, le clip, le personnage, la moustache, le vinyle, tout. Et c'est vrai qu'on le mettait un peu à toutes les sauces dans les sketchs. Donc Thierry Pastor me fait penser à cette période d'arrivée en télé. Ouais.
Et vous commencez chez les Morandini.
Exactement.
Et ça se passe pas des masses bien, en fait.
Bon, ça se passe pas des masses bien. Oui, non, c'est juste que nous, on était. On a fait des trucs. On était en lancement à la fin d'émission, il fallait qu'on fasse des petits lancements, mais comme parfois les émissions durent, bah parfois ce que tu fais est un peu zappé.
Ça saute, ouais.
Donc à un moment donné, c'est juste que d'un commun accord, je pense que lui, il n'est pas forcément
à nous en voir dans son émission.
D'un commun accord, on s'est cassé avec David. Et voilà, et c'était, mais pour lui comme pour nous, je crois que ça a été. C'était
vous mieux, avez tourné pour lui?
Non. Oh non, non, arrêtez. On va recevoir.
On part au cinéma.
En duplex.
On va recevoir Gisèle. Gisèle Arustrevidi. Merci Gisèle de venir à ce micro. Vous êtes psychanalyste. Vous êtes déjà venue dans l'émission. Vous avez signé Parents immatures et enfants adultes en 2001, également en 2004. C'était une réédition, c'est ça?
Oui, je sais pas oublier.
Ou une autre
Une édition augmentée. Voilà. Oui.
Ne bouge pas, tu vas tomber, réussir malgré ses parents. Vous l'avez publié en 2015. On parle de l'enfance et beaucoup de l'enfance dans ce film, puisque Vanda est surtout nostalgique d'une période de son enfance où elle a vécu ses premiers émois en admirant la perfection et la force d'un moniteur. Ce sont des années qui marquent toute une vie et qui vont marquer toute une vie, garçon ou fille d'ailleurs. Des années comme ça, de la préadolescence, où on tombe amoureux, où on admire l'autre.
On tombe amoureux souvent parce qu'on ne sait pas pourquoi. C'est ça. On peut le trouver pas beau, pas sympathique, pas je
c'est
ne sais
parti,
quoi.
C'est mal parti, là, quand même.
Pardon ?
Pas beau, pas sympathique, c'est mal parti pour tomber amoureux, non ?
Eh ben non. Ça peut être très bien parti, si vous êtes un peu maso, si vous êtes un peu je sais pas quoi, ou s'il ressemble à votre père, ou à votre grand-père.
C'est vrai qu'il faut quand même préciser que là on parle d'histoire d'amour, pas d'histoire d'amour entre enfants ou entre ados,
oui.
Mais une histoire d'amour impossible, oui. Celui oui. d'un gamin pour sa prof ou celui d'une gamine pour un moniteur.
C'est absolument ça. Un gamin pour sa prof, en ce moment, le sujet est peut-être tabou, mais...
Non, je ne parle pas de ça.
Mais ça veut dire qu'inconsciemment, on peut rejouer des choses tout à l'âge adulte de ce qu'on a vécu enfant. C'est-à-dire, je ne sais pas, le moniteur de ski, l'entraîneur de sport, et on peut se dire ensuite...
C'est-à-dire qu'on le rejoue sans le jouer.
Le sauveteur au bord de la mer aussi, le maître nageur.
Le pompier.
L'aumônier.
Mais ça peut être très compliqué. Par exemple, je pense au cas d'une personne qui avait eu un père qui n'a jamais travaillé, qui était aux allocations de toutes sortes. Enfin, elle a épousé un type surdiplômé, mais vraiment surdiplômé. Et elle s'est dit, ça y est, je m'en sors et tout. Et le gars n'a jamais pu travailler.
Est-ce que cette nostalgie de l'enfance est un frein pour devenir adulte ou parent, grandir?
Je ne sais pas si c'est un frein, mais tout le monde n'a pas la nostalgie de l'enfance. Tout le monde ne l'a pas. Il y a des gens qui disent « moi, pour un empire, je ne revivrai pas mon enfance ». Mais il y a parfois une espèce de sentiment qu'on a vécu des choses étonnantes et qui, en fait, ne le sont pas vraiment. Hein.
Est-ce que ça va avec le « c'était mieux avant » qui est une tendance qui m'agace mais,
Moi, ça m'agace.
Ouais.
Ça m'agace prodigieusement parce que je pense que dans toutes les générations, depuis les Gaulois, on dit ça. C'était tellement mieux avant. Moi, je dis, c'était mieux avant l'informatique. Des fois, quand je soupire et que j'en ai vraiment marre. Mais je ne crois pas que c'était tellement mieux avant.
Dans le film, peut-être pas le rôle du père, mais de la mère. Oui, Vanda est un peu immature dans son comportement. Est-ce que les parents immatures peuvent être un danger pour les enfants?
La question est ambiguë, hein. C'est-à-dire...
Ah, il est ambigu, Nagui. Hein.
Vous avez su me lire.
Allez-y, Gisèle.
C'est-à-dire que, en principe, ça peut être très marrant. Un parent immature, ça devient un copain, on fait un tas de choses avec lui, on se marre, on fait des sottises, et des grosses sottises parfois.
Mais c'est un grand enfant, quoi, on se marre avec lui.
Voilà, exactement. Mais dans des moments essentiels, parfois, il manque. Et souvent aussi, le parent immature donne un enfant hyper mature. Parce qu'il faut prendre les décisions.
Pour équilibrer, c'est-à-dire que l'enfant devient adulte trop vite, alors lui.
Pardon ?
L'enfant devient adulte trop rapidement. Est-ce que, pour en revenir à la nostalgie, est-ce qu'elle est difficile à vivre pour les autres ? Ce qui est le cas aussi dans le couple, il y en a une qui est vraiment tournée vers le passé avec le « Ah, mon enfance, ce que j'ai vécu », et son mari qui devient dingue parce que c'est impossible de regarder dans le rétro comme ça en permanence.
Bah, ça permet de vivre dans la nostalgie, ça permet de piétiner en toute bonne... En toute bonne cause, on se dit « Ah, ben, c'était tellement mieux avant, quand j'étais petite et tout ». Mais souvent, la nostalgie est aussi liée au fait que quand on était petit, on n'avait pas de responsabilité, on avait une vie, en fait, qui coulait comme ça, elle marchait.
Le problème, c'est qu'il ne faut pas reproduire les schémas auprès de ses enfants, c'est-à-dire pas forcément faire le transfert. Là, encore une fois, c'est ce qui se passe dans le film, de se dire « Ma fille va vivre la même chose que ce que j'ai vécu et va être malheureuse parce que je suis malheureuse ».
Moi, à mon avis, c'est pas la fille, c'est la petite fille. Ça saute très souvent une génération.
D'accord.
On trouve un immature, une hypermature, qui couvre ses enfants et qui prend toutes les décisions pour eux. Et moi, je sais ce qui est bon pour eux, etc., etc. Et après l'autre, du coup, il a plus du tout de responsabilité. Alors, on trouve une espèce d'alternance.
Est-ce que dans notre ADN, on porte justement les blessures de génération en génération quand quelque chose a été... les phobies, ou les craintes, ou au contraire, les passions?
ADN, je sais pas, mais éducation, sûrement. Sûrement. Par exemple, les gens qui ont peur des araignées ont des enfants qui ont peur des araignées, etc. Parce que si je pousse des hurlements à chaque fois que je vois une araignée...
Vous allez éduquer l'enfant, ouais, c'est ça.
Il est conditionné, le marmot.
Le marmot. Merci Gisèle Arus-Révidi d'être venue à ce micro à propos de
marmot. Les pères sont souvent plus immatures que les mères. Quand même.
C'est clairement. Vrai. C'est vrai.
Clairement,
je parle pour mais moi. De toute façon, les hommes sont plus immatures que les femmes.
Allez, c'est parti dans le cliché.
Tanguy Pastureau, l'espace, moi l'espace ça me fait rêver, mais vous?
Oui, moi aussi, hier j'ai essayé de voir la lune rouge, bon j'ai rien vu, je vis à Paris avec la pollution, plus les vols de pigeons qui viennent bouffer les cadavres des rats, c'est impossible. Les Chinois ont visité la face cachée de la lune, et hier l'Europe a annoncé qu'elle se lançait aussi. La Terre, c'est devenu ringard, c'est le Dijon de l'espace.
On en parlera avec Gus aussi et Thomas Pesquet après avoir dit le Dijon de l'espace.
Bonjour Nagui.
Quel bel homme.
Ça va?
Et nos invités, Gustave Kerbern et Grégoire
Blic.
Yes. Oh, Gustave. La montagne est belle, la neige est belle, le ciel est bleu, tout va bien, la famille se retrouve au ski et papa décide que tout va bien se passer parce que c'est comme ça, quand on est au ski, on oublie tout, comme l'a dit tout à l'heure Grégoire Ludig, ce sont les vacances, à telle heure on va skier, à telle heure on rentre pour le chocolat chaud, le soir c'est raclette et on est heureux.
Et ça coûte assez cher pour être heureux.
C'est ça fait.
Ouais. Ben pour non, être optimisé.
C'est vrai que ça coûte tellement cher.
Ouais, chaque descente, cher. Quand tu calcules, c'est un bras.
Le ski, ce sont les vacances les plus chères qui puissent exister, entre le matos, la location, la bouffe.
Le voyage.
On peut pas faire ces... Ouais, encore, tu peux y aller en
à
train.
Pied.
Non, mais je veux dire, t'es pas...
Les préservatifs.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que t'as qu'une supérette. Ouais. Tu peux même pas aller voir le concurrent. Quoi. T'as pas le choix.
Pas le choix.
Et les locations, ça coûte un bras. Donc, il y a cette espèce d'obligation au bonheur et au carpe diem.
Ah oui, c'est ça.
On peut pas non plus partir claquer la porte en disant, parce que c'est ça, je rentre ou je me casse ou je vais ailleurs, parce qu'on est obligé de se retrouver dans le même appart. Généralement, et c'est le cas dans le film, et là on retrouve aussi ce que l'on vit, on est les uns sur les autres, il n'y a pas la place entre les valises, le matos, les chaussures. Dès qu'on ouvre une porte, on tape sur quelqu'un, la salle de bain, on se bat pour y passer les uns à la suite des autres. On retrouve vraiment cette ambiance-là dans le film, les petits flocons. La dose de poésie en plus, c'est que la maman a un syndrome, le syndrome du moniteur de ski, c'est-à-dire qu'elle a été amoureuse lorsqu'elle était préadolescente, 10-12 ans, on imagine, amoureuse de son moniteur de ski, et qu'elle en garde une trace indélébile au point où elle va faire un transfert sur sa propre fille en se disant « Je dois la protéger, je suis malheureuse moi-même, je ne veux pas qu'elle soit malheureuse à cause de ce syndrome. »
Ben ouais, c'est exactement ça. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est ses propres névroses qu'on transmet
à nos enfants.
Aux enfants, et là c'est clairement le cas, et elle fait un transfert, comme vous dites, elle se met à la place de sa fille, qui n'est pas possible parce qu'il va lui arriver des tas de bricoles et elle peut pas, dès qu'elle est jeune maintenant, elle est encore jeune et toute, enfin, elle a pas de problème, donc on va pas lui en causer maintenant, donc voilà. on va la protéger de ça.
Et puis rien ne va pour elle. Elle est mannequin jambe, elle a une flébite, elle a la jambe qui enfle, elle a sa carrière qui part en vrille. Non,
surtout, elle a peur de mourir parce que ça peut provoquer une crise cardiaque. Donc il y a ça en plus, la peur de la
caillot,
mort.
Le caillot peut atteindre le cœur. Le caillot peut atteindre le cœur. Il y a une scène très très drôle avec un autre mannequin, un mannequin poitrine. C'est à mourir de rire parce que
elle peut pas être mannequin yeux.
Non, ouais. Non, parce qu'elle a, elle a clairement. Comment il s'appelle ce comédien là, Martine le comédien.
Martin Feldman.
Ouais, qui avait un œil qui joue au billard pendant que l'autre compte les points. Mais c'est
Frankenstein Junior.
Tellement drôle. Bah, imaginez une fille qui a ce regard-là, mais qui a les plus beaux seins de la planète pour faire mannequin poitrine. Et au milieu arrive donc un tolard, puisque c'est comme ça que vous êtes qualifié dans le premier SMS que va recevoir le fils de Vanda. Un tolard qui a comme visiteuse cette maman. Et qui va venir passer des vacances et faire l'incruste. Et être le boulet de la famille.
Ouais, c'est ça, le grain de sable ou le grain de sel dans la famille qui va déclencher un peu toutes les frustrations, tous les problèmes qu'il y a dans cette famille et qui tout va se révéler, le révélateur en fait.
Ce qui est fort dans la construction, dans la manière dont le film a été écrit et je recite Jeanne Éric parce qu'elle est vraiment une brillante auteure et réalisatrice aussi, elle a collaboré avec Joséphine Demoy à l'écriture de ce film, c'est que c'est pas un moment d'humour, un moment de poésie, c'est que tout est vraiment bien entremêlé et qu'il peut y avoir autant de tendresse que de vanne dans une même scène. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti au moment du tournage et comment vous l'avez vécu, mais enfin nous, en le voyant, c'est comme ça qu'on l'a vécu.
Bah, on l'a vécu comme un tournage qui n'est pas un film à vanne ou à punchline. C'est vraiment des scènes du quotidien qui font que voilà, on se retrouve en Émile dans un petit appartement de 15 mètres carrés et puis on est. En fait, le truc qu'il y a, c'est qu'à la montagne, on est nous humains, on est dans un univers qui n'est absolument pas adapté à tout ce qu'on est. Donc on se couvre, donc il suffit de se mettre une doudoune et un bonnet et puis on a l'air un peu ridicule. Donc c'est un peu l'humour du quotidien, je pense. C'est un pêle-mêle de poésie, de tendresse, d'humour noir et puis de. Et puis il y a un truc un peu tragique aussi, c'est-à-dire qu'elle, ce qu'elle vit, elle en rit pas du tout. C'est terrible pour elle de subir ça.
Ouais, et puis il y a un côté féerique aussi, il y a un côté magique dans tout ça, parce que d'abord
il y a des épiphanies.
Ouais, voilà. Exactement. Et puis la montagne, les étoiles, les flocons, ça prête aussi à la magie, aux boules de neige et aux rêves et à l'évasion. Et puis dans cette magie, il y a deux apparitions qui sont des stars du cinéma qui se prêtent au jeu et qui font rêver, voilà. Et donc on a dit qu'on ne les citerait pas, ça me démange.
On peut dire en revanche qu'il y a aussi des apparitions qui ne sont pas des stars, mais qui sont des sortes d'hallucinations, ou en tout cas qui vont dans le sens de la poésie du personnage incarné par Joséphine Demoy, parce que finalement son syndrome du moniteur, c'est aussi le constat que c'est la perte de l'enfance et de l'innocence. C'est ça en fait la difficulté, c'est se dire qu'en la réalité, quand on est petit sur des skis, tout est magique, le moniteur il est beau, il sent bon, mais la réalité, c'est quoi? Bah, c'est potentiellement la prison, c'est les amours déçus du fils aîné, c'est les relations de couple un peu délicates. C'est ça. Ça m'a fait penser à un texte de Michel Léris dans L'âge d'homme. Il raconte un épisode de son enfance où il se fait opérer des amygdales et tout le monde l'entoure, le cajole et on lui dit qu'il ne craint rien. Et en fait, il arrive dans une pièce et il décrit le dentiste comme un ogre avec une blouse blanche. Et ensuite, tous les moments où il ne pouvait plus manger, on essayait de lui donner un peu de la glace à la fraise et il sentait le sang qui coulait dans sa gorge. Et il commence à partir de ce moment à considérer que le monde des adultes est un monde de mensonges et qu'on est juste là pour être de la chair à canon envoyée à la guerre, qu'on est juste, que le monde est rempli de choses trappes, en fait. Et il y a un très très beau texte qui m'a fait penser finalement au raisonnement de Joséphine Demoy dans le film.
Belle comédie en tout cas.
De l'autre côté, on se rend compte aussi qu'à l'inverse, Joséphine reste une enfant dans son comportement, dans sa vision du monde, dans le choix du prénom de sa fille Céleste. elle est toujours dans le rêve et dans l'imaginaire. Ouais. Et vous avez un côté, vous êtes des grands enfants, vous aussi, dans votre comportement. Même le père joue un peu à l'homme mature qui veut tenir la boutique, mais ça, vous êtes des mômes, quoi, les uns et les autres.
Bah ouais, ça tient pas. Ouais. Mais c'est ça qui est beau, non, justement.
Ça, ça va se voir que même vous, dans la vie, vous êtes des mômes, hein, tous les deux.
Oh bah nous, ça y est, on sait.
Allez, il est temps d'avoir Tanguy Pastureau sur Inter. Tanguy, l'Europe rêve à son tour d'aller sur la Lune.
Oui, mais juste parce qu'on vient de se faire griller par la Chine. Sinon, on en aurait encore moins à faire que Carla Bruni de choper des places pour le Hellfest. Parce que la Lune, c'est nul. C'est un lieu très surcoté. Il n'y a rien, même pas de McDo. Alors qu'à Mâcon, l'équivalent français de la Lune, il y en a deux. Et la pesanteur y est 6 fois moindre que sur Terre. C'est-à-dire que là-bas, Booba et Caris font 27 kilos chacun. Le poids qu'ici, on a à 6 ans. Donc s'ils allaient là-haut, ils seraient raccord avec leur âge mental, ces deux branleurs. C'est un enfer, la pesanteur. Sur la Lune, dès que vous sautillez, vous décollez de 15 mètres. Les astronautes comptent pas les moutons pour s'endormir parce que le temps que chaque bête monte et réatterrisse derrière la barrière, en une heure, ils n'ont pu en dénombrer que 4. Donc, le 3 janvier, alors que nous, on digérait à peine des blocs de foie rongés par la maladie, de volatiles crevés dans d'atroces souffrances, mais connus chez nous sous l'insolite sobriquet de repas de fête. Les Chinois qui bossent, eux, faisaient atterrir une sonde sur la face cachée de la Lune, celle qu'on ne voit jamais, l'équivalent de l'intellect de Benjamin Griveaux. La Chine a envoyé quand même sur la Lune une mini biosphère, des graines, des levures comme dans un magasin Naturalia et des œufs de mouche, comme dans un magasin Naturalia pas nettoyé. Le but, voir si on peut insuffler de la vie là-haut, auquel cas les Bogdanov aux prochaines vacances foutront leur camping-car sur la rampe de lancement à Kourou et prendront le RTT sur la Lune. Et ça a failli marcher puisque des graines de coton ont germé. Et les Chinois, vous les connaissez, le lundi ils font pousser du coton, bah le mardi ils montent l'usine Nike et débitent des t-shirts. Donc on est passé à rien de transformer la Lune en zone industrielle. Mais les graines sont mortes puisqu'il fait moins 170 degrés sur la Lune. Nous à moins 4, on a Evelyne Delian en moon boots qui grelotte en live, donc moins 170 c'est atroce. C'est la température du regard de Martine Aubry quand elle est fâchée, c'est-à-dire dès qu'elle ne dort pas. La Chine a donc connu un revers, impossible de faire pousser quoi que ce soit sur la Lune. C'est pas demain qu'on va y tourner, l'amour est dans le pré. Surtout qu'avec le casque, ce serait impossible pour les candidats de se rouler des pelles. Mais les Chinois sont positifs. C'est ça qui les différencie de nous, des frères Dardenne. Ils parlent déjà d'y revenir, avec cette fois des humains, et veulent envoyer un robot sur Mars. Alors on sait pas lequel, j'imagine que c'est le Majimi Cook Expert, parce qu'il est vraiment super. Donc nous, les Européens, on voit ça. On se dit, mais par le bouc de Stéphane Escher, on est comme des cons à harmoniser les boutons des chasses d'eau dans la zone CEE. Pendant ce temps, les Chinois conquièrent l'espace. D'autant que derrière, l'Inde aussi a des ambitions spatiales. Dès qu'un pays fait plus de 2% de croissance, il met tout le brosouf dans l'espace. Si le président du Mozambique gagne au loto-foot, 20 minutes plus tard, il est en orbite. Toute une partie de leur peuple qui a faim et à qui il pourrait vouer cet argent, ils s'en foutent, exactement comme chez nous.
Et que va faire exactement l'Europe en matière de conquête spatiale?
Hier, Ariane Group a annoncé la possibilité d'aller sur la Lune vers 2025. Génial, on n'est pas en retard du tout. En 2025, il y aura déjà 100 000 Chinois là-haut. Les Européens vont arriver, ils devront passer la douane. Derrière, il y aura le duty free. Et dans le hall des Uber, tentant de se faire passer pour des taxis, vous diront, mon frère, c'est 60 euros pour aller sur Neptune. Mais l'Europe réalise trop tard qu'en la matière, nous sommes des brêles. Juste bon en 69 à regarder les ricains marcher sur la Lune, tandis que nous, on fumait des spliffs dans le Larzac en transpirant à force de mater des posters de Jane Birkin. Or, moi qui suis naïf, jusqu'en 2002, j'ai refusé de croire que Milli Vanilli, en fait, c'était pas eux qui chantaient. Je me dis, mais rien n'affiche que ce soit des Chinois qui y aillent. Ce sont des humains. Ils font donc avancer notre espace dans sa globalité. Si un Chinois demain arrive à faire pousser du blé sur la Lune, c'est moi qui achèterai les Frosties de l'espace, 249 euros la boîte. Mais même là, on se tire la bourre. L'Agence spatiale européenne veut absolument que ce soit des Européens qui aillent dans l'espace. Soit Ariel Dombal, parce qu'elle est déjà à mi-chemin entre nous et là-haut, soit quelqu'un d'autre. Alors, les types de l'Agence spatiale, que des gonzes qui, petits, ont traumaté Star Trek, puisqu'on est marqué parce qu'on regarde enfant. Moi, j'ai grandi avec Tom Sawyer. La première fois que j'ai rencontré un noir, je lui ai demandé s'il pouvait m'apporter une orangeade. Donc les mecs déclarent, la conquête de l'espace est nécessaire pour l'avenir de l'humanité. Et ils sont en train de réaliser que notre planète, c'est cuit. À moins que d'un coup, on se déplace tous à patte et qu'à Sushi Shop, ils déclarent une trêve avec les thons rouges. Ils ont fait le deuil de la Terre, cette planète désespérante qui abrite l'homme, plus gros prédateur ayant jamais existé. À Fort Boyard, ce sont les migales qui devraient avoir peur de l'être humain, qui essayent de leur retirer le papelard qu'on leur a collé sur le bide. Pas le contraire, parce qu'on a exterminé toutes les espèces. Donc en gros, la Lune, Mars ou le Soleil, pour Jean-Pierre Foucault qui peut aller y vivre parce qu'il a déjà la face grillée comme une cracotte de marque distributeur. C'est notre plan B quand on aura fini d'épuiser toute notre planète à nous. Tout ça alors que la Lune est un astre incertain, elle change tout le temps de couleur, comme Nicolas Sirkis d'Indochine. Donc annulons tout ça, on s'en tape de ce qu'il y a au-dessus de nous. La plupart du temps, c'est juste Yann Arthus-Bertrand avec sa vieille moustache pleine de soupe séchée. La Terre, c'est beau, c'est hospitalier.
Tu respectes personne.
C'est pas moins 170. Alors, Chinois, Européens, Américains, faisons l'amour en bas, tous ensemble, et envoyons-nous au 7e ciel, mais gratos.
Tanguy Passureau, merci.
La bande originale, la vie. Sur France Inter.
Les petits flocons, film de et avec et par Joséphine Demeaux.
Allez Gustave.
Ouais, sauf que c'est Grégoire qui chante à cappella, ce titre. Ouais, c'est ça,
on est interverti. Dans Altra, il y avait une très belle version de Sunny par Bully Lanners en yaourt.
Pas mal.
Qui est un des beaux morceaux de ce film.
Du cinéma.
Ouais. Joséphine Demeaux donc avec vous deux, Grégoire Ludig et Gustave Kerveigne, également Thomas Simeka, Adèle Gillin, Alix Gavoil, Marie-Ève Musy, Erwan Griveau, Magali Rosenweg, Déborah Graal, Jean-Luc Vincent, Richard Michalik et des invités prestigieux également.
On est obligé de bouger la tête.
Hein. C'est dingue, hein.
Ah ouais, c'est obligatoire.
Mais c'est... Autant parce que la musique nous voilà, on a grandi tous ou généralement en tout cas avec cette musique, autant parce que ça évoque une espèce de nonchalance, de légèreté.
Ouais, c'est
et puis il y a une autre musique aussi qui n'est pas forcément bonhomme. Je rappelle que dans le gimmick, le running gag, mais qui justement, et c'est ce que ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure, tout n'est pas que gag, il y a de la poésie, mais sur bonhomme, c'est un running gag, donc on se marre, mais également on est ému. Et c'est ça l'intelligence et la force aussi de Joséphine Demeaux, c'est qu'elle réussit avec une même vanne à la transformer soit en gag, soit en émotion. Côté musique, il y a également... Every day, every night, it's not a game, it's a fight. Who will win this tug of war? Christophe Casavan, Take Another Way, qui est le générique de...
C'est la musique du début.
Ah, il y en a une autre à la fin, c'est ça?
Bah, à la fin, je crois que c'est Bonnie M.
Non, il y a un titre un peu country que j'ai plus en tête.
Aussi, cette chanson, non?
Ouais. Je crois que c'est celui qui est deux fois, ouais, ce titre-là.
Ouais.
Take Another Way. Bon, enfin bon. Intelligent, émouvant, drôle, poétique. Je parle du film, évidemment, pas de Daniel Morin.
Ah, oui, évidemment.
C'est des petits flocons.
Oui. Et aujourd'hui, on commence par de la hard news.
Chaud.
De l'info brute, de l'info dure, de l'info sans filtre, l'info qui tambourine comme tu aimes, Leïla. Hein, oui, j'ai lu hier, j'ai appris la news et je l'ai prise comme un coup de poing dans la gueule. Je vous la livre telle quelle. Patrick Fiori a décidé de perdre du poids et de ne plus utiliser d'emballage plastique. Allez, l'info! Ah, il fait pas dans le détail, le Patrick. Quand il prend des décisions, c'est du radical. Alors, je tenais à partager cette info de première bourre avec vous. Je sais que c'est dur quand on n'est pas préparé, mais c'est aussi ça, le plus de la radio publique, la réactivité qui t'a choqué. Alors, choc toujours avec, depuis hier, le procès de la viande de cheval dans les lasagnes. Enfin, quel choc. D'où ça, scandale, qu'il y ait du cheval dans les lasagnes?
Bah si.
Vous croyez que le bœuf, il avait envie de finir entre deux plaques de pâtes? Non, pas plus que le cheval. Et puis, hein, tu fais quoi, toi, de tes chevaux morts? Autant en profiter, autant les bouffer. On est tous là à s'indigner du gâchis, arrêtons le gâchis. Alors, je suis bien d'accord, commençons par manger nos chevaux morts, après on en reparle. Tout ça parce qu'on a l'image romantique et noble du canasson qui galope au ralenti sur la plage à marée basse, avec dessus un crétin torse nu ou une greluche en nuisette qui regarde l'horizon, la bouche à moitié ouverte en disant
« Oh, c'est beau, la vie à cheval. »
Il y a pas de scandale. Si on mange du bœuf, alors mangeons aussi du cheval ou de la belette, et pourquoi pas, et là attention, je jette un pavé dans la mare,
attention.
Pourquoi pas manger du stagiaire, ici à la bande originale, on utilise au moins deux parents, deux qui en fin de saison quittent la maison de la radio en rampant et qui vont mourir dans l'anonymat et l'indifférence générale, là aussi stop au gâchis, on les récupère, on fait un bon barbecue, ras-le-bol de toutes ces réactions offusquées, outrées, indignées,
tambouriner,
Leïla, évidemment, ces élans d'indignation, ça devient n'importe quoi. Regardez encore hier, Marlène Schiappa va animer sur C8 une émission sur le grand débat national avec Cyril Hanouna. Indignation générale, Agnès Hurstel en tête de gondole. Mais pourquoi Cyril Hanouna est tout à fait capable de défendre une telle émission? Alors je les entends d'ici, ceux qui vont me dire, mais enfin non, un gars qui met des nouilles dans le slip de ses collaborateurs. Non, c'est pas le gars de la situation. Eh bien, au contraire, les nouilles dans le slop, si toutefois, on a accepte d'avoir une vision objective de l'initiative. C'est peut-être un acte visionnaire. Si, sans le savoir, Cyril Hanouna, avec ses nouilles chaudes, pas trop non plus, nous avait donné une solution pour lutter contre le froid qui, en ce moment, nous tombe dessus. Hein? Si ça se trouve, ça va devenir une proposition retenue par le gouvernement comme une aide publique. L'hiver arrive, vous n'avez pas de quoi vous acheter des vêtements chauds. Pas de panique. Suite au grand débat national, le ministère de l'Environnement met en place le plan Grand Froid à Nouna. Un slip étanche à 2 euros, 5 kilos de nouilles gratuites par personne et par semaine. Et hop, tous les matins, c'est une sensation de confort et de chaleur qui vous accompagnera. Et tout ça grâce à l'État et Cyril Hanouna. Alors pour marcher, je suis pas sûr que ce soit hyper pratique, mais au moins c'est une proposition. Il fait des propositions, il propose des trucs concrets, Cyril Hanouna. Arrêtons de le critiquer par pitié. À demain.
Merci Daniel Morin. Vous en prie. France Inter, la bande originale. Les petits flocons qui continuent de tomber sur Paris, mais c'est une opération marketing, je rappelle, de Joséphine Demeaux, de Grégoire Ludig.
Ça s'arrête dans 6 minutes.
Ces petits flocons, c'est le titre de ce film, de ce beau film, de ce doux film, de ce film agréable, drôle, que vous pouvez, que vous devez aller voir en famille au cinéma, parce que c'est vrai aussi qu'on sort de là, peut-être qu'il y aura des discussions entre enfants et parents, certains parents sur leur propre enfance, et où certains se rendront compte aussi des fêlures qu'ils peuvent traîner et comment dirais-je, faire déteindre sur les enfants, parce que, comme l'a dit tout à l'heure Gisèle, notre psychanalyste qui est venue, on peut faire comment dirais-je, transmettre des phobies comme des choses plus positives aussi, on peut transmettre des passions, mais il faut protéger aussi nos enfants.
Bah oui, tout à fait, donc c'est pour ça que c'est assez intéressant dans le film, on le voit bien. Et on voit bien que Joséphine est très très empathique d'avance, ouais, avec sa fille, et c'est ça qui crée enfin beaucoup de choses. Et
elle, elle a préparé le terrain déjà pour la.
Ouais, elle a préparé le terrain. Ouais, ouais, c'est ça, exactement.
C'est ça. Ce film avec la BO qui vous fera fredonner et bouger la tête sur Boney M, et avec des comédiens extrêmement forts et émouvants. Alors, en parlant des projets, vous confirmez Gus, donc ce projet avec Brigitte Fontaine,
ouais, ouais.
Morlaix.
Ouais, ouais, tout à fait.
Que vous allez tourner quand, alors,
ben là, avec Benoît Delépine? Du 14 avril, mais vous savez, c'est encore très nébuleux, mais ça devrait se faire. Et puis, on a un projet de film qu'on devrait tourner en août aussi, mais on avait écrit tout un scénario, figurez-vous, qui était carrément l'histoire d'un gilet jaune. Donc le temps de le tourner, le temps qu'il sorte, on aurait été un peu dépassé, donc on a foutu le scénario à la poubelle.
Mais pardon, vous l'avez...
On avait anticipé le
avant
mouvement.
Avant que ça arrive
Bah, c'était un gars qui habitait dans une zone périphérique et qui avait tous les problèmes de diesel, qui voulait revendre sa bagnole.
Et qui a concrètement pris un gilet.
Non, quand même pas. Non, mais je veux dire, c'était toute la
pitch.
Problématique, ouais, de d'accord. Tout ça. Donc on l'a foutu à la poubelle, donc on repart sur autre chose. Mais en tout cas, voilà, on espère tourner en août avec une autre histoire. On a repris quand même des trucs de l'ancien scénario, mais voilà, donc on repart au combat.
Et puis après... Poisson sexe, c'est un film que...
Ouais,
vous...
ça c'est un film que j'ai terminé. Alors je sais pas où ça en est du montage, etc.
Olivier
Babinet, super beau film aussi, très très poétique. Enfin, j'en attends beaucoup, et voilà. Sinon, pas. Oui, je vais faire une série pour Arte avec Eric Cantona. Donc je suis content parce que j'adore Eric Cantona. Je le connais pas, mais on va tourner ensemble cette série qui, ouais, s'appelle Cadre Noir, qui a été écrite par Pierre Lemaitre. Donc voilà, ça je suis très content de le faire.
Et vous allez présider le 26e festival du film fantastique de Gérard May.
Ouais, ça c'est bientôt.
Fin janvier, le 30,
Benoît,
dans 10 jours.
On part là-bas pour présider ce... Moi, je suis pas un spécialiste ni un amateur absolu de films fantastiques, mais comme je suis curieux et que j'aime bien tous les cinémas, je pense qu'on va être quand même... Il y a 10 films en compétition.
Et vous aimez autant faire vos films que participer au projet des autres et être plus malléable,
ouais,
François Désir,
ouais. Bah, disons que faire
être
comédien,
dirigé,
c'est plus facile quand même, et plus cool que d'être réalisateur, hein, ça, il n'y a pas de problème. Et donc ça, ouais, j'aime bien tout.
Et vous aussi, Grégoire, vous avez ces deux casquettes. Est-ce qu'il y a d'autres films que vous allez jouer en tant que comédien? Mais je parle pas de Palmacho, je parle de...
Oui, voilà, j'ai la chance de recevoir des scénarios, donc je lis, je vais voir, je suis en
plein... Rien de décidé pour l'instant.
Non, rien de décidé, d'accord, pour l'instant. J'aime bien.
Le Palmacho bientôt sur TF1.
Tout à fait.
Ça c'est une info.
Tout à fait.
La période à peu près, c'est déjà tourné.
Ça sera en février, mais je sais pas exactement quand. D'ailleurs, j'attends de savoir.
Mais vous l'avez tourné en tout cas.
Oui, tout est tourné.
Avec des guests, avec
tout
des
est
surprises.
Tourné avec des guests, avec monsieur,
ouais,
ici
j'ai
présent.
Fait une petite participation.
Avec Gus,
et ouais, je suis très fier d'ailleurs. Merci.
Merci. Merci.
Il paraît que vous y êtes 5 secondes.
Avec vous, c'est pas, plus, c'est pas loin de ça.
C'est pas loin. Avec David Marseille.
Tout à fait.
Je le rappelle. Et puis, j'imagine un deuxième long métrage aussi.
On est pareil, comme dit Gustave, on est reparti au combat aussi, et on est, ça y est, on a lancé l'écriture.
Parfait. En attendant tous ces beaux projets, allez voir demain Les Petits Flocons au cinéma, signé Joséphine Demoux. Daniel, excuse à présent.
Bien sûr, et désolé en premier pour Grégoire Ludic. J'ai eu la direction de TF1 au téléphone à la pause et vous n'allez pas être payé en ticket resto cette fois. C'est une bonne nouvelle. Par contre, vous serez toujours payé mais en ticket de métro cette fois.
Merci.
Il y a une petite progression. Désolé pour Nagui qui, après avoir découvert hier avec Omar Sy la position de l'écoute, le charisme du silence aujourd'hui de Michel Houellebecq. Eh ouais, mon gars, ouais, on rêve d'un Nagui muet. Sache-le. Et désolé pour les salariés du pressing de Michel Houellebecq quand ils ont découvert que ce matin ils auraient du boulot avec les fringues de Michel. Alors, pour enlever les croûtes de fromage collé, utilisez de la vapeur. Ça marche sur les sous-vêtements d'Albert Algout.
Merci beaucoup. Demain, Caroline Proust et Thierry Godard.
Je voudrais dire quand même que Michel Houellebecq, même avec un seul slip, ça reste un génie quand même.
Caroline Proust et Thierry Godard sont nos invités pour parler d'Engrenage.
Saison 7.
La nouvelle saison sur Canal. En attendant le cinéma, les petits flocons avec nos invités. Merci Grégoire, merci Gustave d'être venu aujourd'hui.
Merci les carnets de campagne. Aussi bien parler du film.
Oh, c'est gentil. Les carnets de campagne, c'est maintenant Philippe Bertrand.
Oui, bonjour Nagui, bonjour les amis. Et on n'a plus de fenêtres dans les studios, c'est bien dommage parce que j'aurais pu dire oh, il neige. Et puis
mais il neige, je te jure qu'il neige. Nous, on en voit un peu.
À l'école, on avait ça. Moi, je me souviens à l'école, j'avais tenté le coup au début de l'été. J'avais dit oh, il neige et tous les regards étaient allés vers la fenêtre.
Tu te souviens encore de.
Ouais. Et j'étais puni, j'ai fait 10 fois le tour de la cour de récré de Manando.
Ah ouais,
sacrée anecdote.
Ah bah, c'est la dure.
je pense qu'il va falloir y aller là maintenant, Philippe.
Ouais.
Et un bonnet d'âne.
Allez, salut.